Une rentrée littéraire pour laquelle France Culture et l'Obs se sont associés pour vous permettre d'y voir plus clair. On va parler d'ouvrages, on va tenter d'y voir plus clair parmi les 524 romans qui sont sur la ligne de départ. Et je suis en compagnie, là aussi, d'une armée mexicaine pour parler de tout cela. Je vais vous les présenter, Grégoire Leménager et Elisabeth Philippe pour l'Obs, Olivia Gesbert et Arnaud Laporte pour France Culture et Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour à tous les cinq. Sandrine, peut-être va-t-on commencer par camper en quelque sorte le paysage littéraire en cette rentrée.
Voilà, c'est ça, on va camper. En tout cas, on va commencer par rappeler d'abord que nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver dans ce studio ce matin pour partager ce parmi les choses que l'on aime le plus, hein, au fond, l'expérience de la lecture, l'expérience de la littérature, de le faire avec nos amis de l'Obs, avec un petit salut particulier pour Jérôme Garcin, patron des pages culture et donc aussi littérature de l'Obs, et qui est, je suis sûre, de tout cœur et même sans doute à l'écoute ce matin.
Et cette rentrée littéraire, comment se présente-t-elle, Sandrine ?
Elle se présente par la tête. Elle se présente par la tête. Elle se présente bien. Non, ça me fait penser à ça, moi. Comment se présente-t-elle? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, on s'arrête là. On commente pas. Elle se présente sous la forme.
Commentaire sur le commentaire.
Elle se présente sous la forme de 524 romans, mais après tout, peu importe les chiffres, pourvu qu'on ait l'ivresse de la qualité. 336 romans français. 82 premiers romans, mais surtout une rentrée littéraire qui, me semble-t-il, je crois que nous en serons d'accord, est extrêmement intéressante, avec énormément de textes que, du reste, l'Obs et France Culture, du côté des auteurs, a déjà largement contribué à présenter, et dont il ne faut pas penser que l'épisode, l'affaire, je ne sais comment la nommer, Yann Moix, suffise à la résumer. Du reste, je crois que cet épisode est clos, je l'espère, et nous allons pouvoir recommencer à parler des livres de cette rentrée et à parler de littérature et pas d'autre chose.
Sauf d'un livre dont on ne peut pas parler ici, Sandrine.
Bah oui, en fait, il y a au moins trois livres dont nous ne parlerons pas. Et ce n'est pas la censure qui s'exerce, je rassure immédiatement les auditeurs complotistes. Nous ne parlerons pas du livre, du roman d'Aurélien Bélanger que je vois derrière la vitre, parce qu'il est derrière la vitre.
Il n'est pas menaçant, hein, c'est pas facile.
Non, lui n'est pas menaçant, mais en revanche, il est évident que nous ne pouvons pas, à France Culture, promouvoir dans des sélections les livres de nos collaborateurs. Nous ne parlerons pas non plus du très grand livre également de Charles Dantzig qui s'apprête apparaître, son dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, et nous ne parlerons pas non plus du livre Apparaître début octobre, que j'ai déjà lu avec beaucoup de plaisir autour du dernier automne de Gérard Philippe, de Jérôme Garcin, pour les mêmes raisons.
Donc on dira,
on a des principes, Guillaume.
Point, Le continent de la douceur d'Aurélien Bélanger, publié chez Gallimard, est un très bon livre, on ne le dira pas.
Non,
Sandrine,
on ne le dira
on a dit
pas, et d'ailleurs il n'y a pas eu plusieurs pages d'interview dans l'Obs croisant Laurent Binet et le même Aurélien Bélanger, nous n'en parlerons plus.
Alors qu'on a parlé du livre d'Éric Orsenna, Beaumarchais, un aventurier de la liberté, puisqu'Éric Orsenna est également à nos côtés.
C'est le privilège de l'âge.
Non, pas du tout, vous êtes sous une belle couverture violette. Grégoire Leménager, on va peut-être débuter par les routes de Sylvain Prudhomme aux éditions de l'Arbalète.
Si vous voulez, très volontiers.
Je le veux.
La rentrée littéraire, elle se présente comment ? Elle se présente d'abord dans le plus grand désordre en général, quand même. Et il y a des livres qui nous tombent dessus de tous les côtés. On les commence, on les finit, on les finit pas. On se dit celui-là, on le finira plus tard. Et puis, quelquefois, on tombe sur un livre.
Celui-là, on ne le commencera jamais.
Ça a été le cas pour moi avec le livre de Sylvain Prudhomme. Oui, quelquefois, il y en a qu'on laisse à nos camarades.
Ne vous laissez pas savonner la planche, continuez.
Et franchement, quand il s'est agi de choisir il est difficile de choisir 5 ou 10 livres dans une rentrée aussi pléthorique. Et pour moi, il était évident qu'il fallait absolument que figure le livre de Sylvain Prudhomme, qui est très beau, qui est, on en a parlé dans l'émission d'Arnaud Laporte, La Dispute, il n'y a pas si longtemps. C'est un livre qui ne parle pas spécialement de l'actualité, qui n'a pas de thème très fort, qui n'est pas très engagé, a priori, qui semble un peu décalé. C'est l'histoire assez classique, de deux garçons et une fille. Il y a un garçon qui va prendre progressivement la place de l'autre auprès de la fille, en gros. L'un des garçons est passionné par, est un drogué de l'autostop. Donc, il passe sa vie à parcourir la France en autostop, ce qui donne des très belles pages sur l'autostop. Et le livre n'a l'air de rien, mais il effleure vraiment, énormément de questions existentielles, je trouve, sur le sens de la vie, sur le désir, sur les sentiments. Et à l'arrivée, il y a une page où il cite la plus belle chanson du monde, quand même, qui est Famous Woman Code de Leonard Cohen, qui est une histoire de triangle amoureux. Et ce livre, pour moi, il est aussi beau qu'une chanson de Leonard Cohen, et peut-être même aussi beau, presque aussi beau que la plus belle chanson du monde de Leonard Cohen. Donc,
Ça, c'était donc la première présentation, un livre peut-être, Olivia Gesbert. Vous l'avez à côté de vous,
et moi, j'ai défendu
de quoi il s'agit.
La mère à l'envers de Marie Dariussec, qui est apparue chez POL. Parce que c'est vrai, cette rentrée littéraire, elle était quand même très ancrée dans des enjeux contemporains. Et je dois avouer que quand l'été a commencé, je me suis dit, on va retrouver tous les thèmes qu'on a brassés déjà toute l'année. Et c'était le cas notamment avec le Marie Dariussec, qui s'annonçait être un roman autour de la question des migrants, de la crise des migrants. Donc je l'ai pris un peu du bout des doigts et en fait je suis entrée dedans complètement, parce que c'est un livre qui aborde cette question à hauteur d'homme, sans être donneur de leçons à aucun moment, sans mièvrerie aussi. Marie Dariussec, à travers le portrait de cette femme de 40 ans, qui s'interroge aussi beaucoup sur sa vie et qui fait cette rencontre pendant une sorte de croisière s'amuse, une grande traversée. Le navire va entrechoquer une embarcation de migrants, ils vont les secourir et elle va avoir ce regard pour cet adolescent nigérien, Younes, qu'elle va suivre parce qu'elle va établir le contact avec lui en lui donnant le portable de son fils. Et ça va être vraiment l'évolution de ces deux parcours et la question de savoir ce que l'on fait de nos vies. Comment on peut les changer? Est-ce que les déterminismes sont plus forts que la volonté? Voilà, c'est un livre très très bien écrit.
L'envers de la mer.
La mer à l'envers.
Dariussec.
C'est aussi l'envers de la mer.
Moi j'ai l'envers de... Éric Orsena, vous prenez des notes?
Oui, je prends des notes parce que j'ai envie de voilà, de là, il se trouve que je travaillais sur un thème bien précis qui s'appelle les cochons. Donc je travaillais sur les cochons, j'ai arrêté les cochons et maintenant je vais plonger dans la rentrée. Donc je prends des notes.
Merci.
Et donc Prud'homme, ça y est, la mer à l'envers, ça me ravit. Sur des thèmes comme ça, c'est-à-dire le plus difficile pour un romancier, c'est des grands thèmes qu'il faut évidemment aborder. Et comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire?
Voilà, c'est ce qu'elle nous disait au micro de la grande table. La difficulté et en même temps se sentir ce thème qui s'impose.
On a rendez-vous avec eux, mais est-ce qu'on sera à la hauteur du rendez-vous?
Et qui nous oblige, voilà.
Elisabeth Philippe, votre choix, je vous prie.
Oui, alors on reste dans les grands thèmes avec Girl d'Edna O'Brien, donc cette romancière irlandaise qui s'est inspirée pour ce roman de l'enlèvement des lycéennes nigérianes par les djihadistes de Boko Haram en 2014. Vous souvenez, ça avait lancé ce grand mouvement Bring Back Our Girls, et là elle suit une de ces girls, donc cette jeune fille enlevée, et dès la première page on est totalement pris avec cette jeune fille. Ça commence vraiment in medias res, l'enlèvement au milieu de la nuit, on se retrouve dans la forêt avec ces filles totalement déboussolées. On va évidemment les suivre dans le camp de ce qu'elle appelle la secte, suivre les tortures qu'elles subissent, les viols, c'est épouvantable, et cette jeune fille va réussir à s'enfuir, et pour autant ce ne sera pas forcément une libération. Et ce qui est magnifique avec Edna O'Brien, c'est l'urgence. Alors elle a 88 ans quand même, Edna O'Brien. L'urgence, l'intensité avec laquelle elle écrit cette histoire, sans du tout que ce soit un document. On est vraiment dans la littérature, dans le roman, et on retrouve tout ce qui a fait la force de l'écriture d'Edna O'Brien depuis ses débuts, cette espèce de combativité, de prose de combat, puisqu'on se souvient quand même que ses premiers romans avaient été brûlés dans son propre pays parce qu'ils étaient jugés trop sexuels, et c'est toujours cette liberté qu'elle défend à 88 ans avec ce livre Girl.
Girl, donc, chez Sabine Vespizer et Arnaud Laporte, votre sélection.
Alors, sélection, vous voyez, des thèmes d'actualité. Le cœur de l'Angleterre, Jonathan Coe, chez Gallimard, une traduction de José Camoun. Comment un écrivain peut se dire, un jour je vais faire un roman pour expliquer aux gens pourquoi l'Angleterre, le Royaume-Uni, a voté pour le Brexit.
Ah oui, c'est plutôt d'actualité.
Ah, c'est extrêmement d'actualité et on comprend tout parce qu'il utilise des personnages qu'on avait déjà rencontrés dans des romans précédents de Bienvenue au Club et Le Cercle Fermé. Il les retrouve entre 2010 et 2018 et on va suivre des trajectoires individuelles qui vont se fracasser contre le destin national, la question de l'identité nationale anglaise est présente partout. Et puis on verra aussi, et on sera flatté de voir que la France a une place toute particulière dans le cœur des Britanniques.
C'est vrai, c'est-à-dire ?
Ah ben, je ne vais pas vous raconter la fin, je ne vais pas divulgâcher, ce n'est pas le genre de la maison.
Sandrine Trenner, un commentaire.
Un commentaire sur Jonathan Coe, sur le Brexit, sur...
Le fait de divulgâcher les livres.
Non, je revenais en arrière un instant. Je pensais qu'au fond, le roman, non pas que le thème soit forcément central, mais que le roman de Sylvain Prudhomme, ou au fond, qui est quand même un grand roman aussi sur le territoire, sur oui. l'errance sur le oui. territoire, sur le ralentissement du temps, sur les noms, il égrène les noms des villages et des villes de France, rappelle de d'autres fait d'actualité au fond, puisqu'il braque le projecteur sur des zones où il est un peu le seul à aller. Moi, je traverserais volontiers l'Atlantique avec Jean-Paul Dubois pour aller jusqu'à Montréal.
Jean-Paul
en prison, Dubois. Dans... Oui, pour aller en prison.
Alors, non,
Sandrine Trenner,
pas obligée, parce que, parce que si son personnage.
C'est une métaphore, ils sont très. Ouais. Les choses au pied de la lettre.
Si le personnage central du très beau roman de Jean-Paul Dubois effectivement commence le livre, si ce n'est sa vie en prison, d'abord il n'y a pas toujours été, puis peut-être il va en sortir, et là je divulgâche rien parce que au fond, c'est pas ça l'essentiel. Je pense que Jean-Paul Dubois fait partie de ces quelques écrivains français qui ont un don de la narration tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire qu'on rentre dans le livre comme on rentre dans une mer chaude, c'est-à-dire avec une forme d'évidence absolue pour le lecteur. Et là, il nous emmène dans un roman dont on pourrait dire qu'il sonne, il résonne un peu comme un roman américain, un personnage qui effectivement est en prison. Et après tout, quand on est entre quatre murs, c'est pas le plus mauvais endroit pour se rappeler les grands moments d'une vie, les grands moments qu'on en attend encore, ceux que l'on a perdus, ceux que l'on a aimés. Et ça se présente comme un roman réaliste, c'en n'est pas un, me semble-t-il. C'est aussi un conte. En tout cas, ce roman qui répond au long nom, doux sans doute, mais long également, long titre. Tous les hommes n'habitent pas la terre de la même façon, me semble être
le monde.
Des urgences.
Le monde,
pas la terre, me semble être une des urgences à lire de cette
entrée littéraire. C'est un très bon roman. Et puis émouvant et drôle aussi, parce que Dubois.
Voir le ménager.
Oui, mais ça fait pleurer aussi, moi, chaque fois.
J'ai dit émouvant avant, Arnaud.
Bah oui, et drôle aussi.
Et drôle. Ça fait
Eric Sorcina, vous avez arrêté de gribouiller.
Non, je réfléchis parce que le livre de Coe, celui-là, je l'ai lu et ça m'a tout à fait passionné.
Cœur de l'Angleterre.
Oui, exactement. Parce que les questions identitaires, les questions de séparation de deux sociétés, et on est étonné qu'ils protestent à un certain moment. J'ai beaucoup voyagé en France et il y a vraiment deux France. Et il y a une désertification géographique, économique et aussi dans le domaine de l'espérance. C'est-à-dire cette phrase terrible qui en quelqu'un, disant « c'est pas pour moi ». Et « c'est pas pour moi », c'est tout. Qu'est-ce qui me reste ? En tout cas, pas l'espérance. Et c'est ce qu'on dit, 6 ou 7 générations pour sortir de l'endroit où on venait. Et ça, c'est ce que raconte Coe, mais sociologue plus le récit. C'est ça la force. Parce que le récit est toujours dans l'incertitude, dans l'action, dans la vie. C'est ça, donc c'est pas des leçons, c'est nous. En fait, on aurait pu être exactement de l'autre côté.
Grégoire Leménager, vous avez apprécié Le bal des folles de Victoria Mas chez Albin Michel.
Alors, Le bal des folles, c'est un premier roman d'une jeune femme qui, paraît-il, est la fille de la chanteuse Jeanne Mas, figurez-vous. Le livre ne permet pas de déceler cette filiation. Spécialement, c'est un roman, premier roman historique. C'est Jérôme Garcin qui a lu ça, qui a beaucoup aimé. Et effectivement, c'est un roman historique assez classique. Qui se déroule en 1885 à Paris, à la Salpêtrière. Il a été question tout à l'heure des filles qui se font enlever par Boko Haram. Il y a beaucoup de filles. Je préviens quand même les gens qui vont aller dans les librairies. Faites attention, il y a beaucoup de filles violées, enlevées, martyrisées dans la rentrée littéraire. Et il y en a ici aussi, puisque là, c'est sur les filles qui étaient enfermées à la Salpêtrière en 1885, avec Charcot qui faisait ses
expériences.
Ses expériences.
Ses présentations.
Aussi. Voilà, et ses présentations. Et alors, ce que j'ignorais, ce qu'on apprend dans ce livre, qui est quand même un très beau sujet, c'est qu'à la mi-carême chaque année, on organisait le bal des folles. C'était une des seules occasions dans l'année qu'avaient ces pauvres filles de rencontrer des gens de l'extérieur, puisque une partie de la bonne société parisienne était invitée à venir assister au bal des folles, à les regarder danser, et etc. Et bon, le roman se concentre sur quelques personnages. C'est, on a l'impression d'assister à un beau film historique. C'est très découpé comme ça. C'est, pour un premier roman, c'est très maîtrisé et c'est intéressant.
La violence contre les femmes, c'est aussi le thème du roman de Monica Sabolo, Eden. Nous l'avons reçu il y a quelques jours. Vous avez beaucoup apprécié ce roman, Elisabeth Philippe.
Oui, on retrouve tous les thèmes et la délicatesse de Monica Sabolo dans ce roman. Donc, parmi ses obsessions, il y a l'adolescence, la fin de l'innocence, la fausse fragilité des jeunes filles. Mais là où ses romans précédents se situaient pour la plupart en Suisse, celui-ci, elle s'est délocalisée dans un espace qui n'est jamais défini, mais qui ressemble beaucoup au Canada, avec des réserves, des autochtones, des grands espaces et une forêt, notamment dans laquelle il se passe des choses assez étranges. On y retrouve notamment un matin une jeune fille, Lucie, nue, le corps couvert de griffures. On se demande ce qui s'est passé. Elle parle d'esprit de la forêt. Et en fait, à partir de là, Monica Sabolo bâtit une sorte de conte qu'on pourrait qualifier d'écoféministe, mais à partir de là, on n'a pas dit grand-chose parce qu'elle n'est jamais dans la théorie. Elle aussi, elle est vraiment dans le roman. On est un peu, moi j'ai trouvé, entre le Bambi de Félix Salten pour ses descriptions de la nature, ses métaphores, encore une fois, la délicatesse. Et puis, ça rappelle toujours beaucoup Monica Sabolo, les livres de Laura Kaczynski, cette autrice américaine, pour ce côté empreint de fantastique. Et il y a ce qui est formidable avec Monica Sabolo, c'est la façon dont elle brouille toutes les frontières entre le monde humain et animal, le monde des vivants et celui des morts. Et on navigue comme ça avec elle dans cette inquiétante étrangeté.
Olivia Gesbert.
Alors oui.
Vous avez un livre entre les mains, c'était.
On a un livre parce que les choix ont été collectifs. C'est le Jean-Philippe Toussaint, La clé USB, paru aux éditions de Minuit. Alors ça, je pense qu'il faut le faire à deux voix avec Sandrine Trainer, qui, elle, a compris la fin du roman, et moi pas.
Hein, parce que Guillaume Erner, il ne s'intéresse qu'à une seule chose dans la vie. Au fond, on peut révéler ce.
Les clés USB.
Non, c'est le Bitcoin. Depuis 4 ans qu'il fait cette matinale, il me dit.
Mais qu'un seul souhait, c'est de faire une émission sur le Bitcoin avec Eric Orsenna.
Moi, je lui dis non, pas d'accord. Le Bitcoin à 7h30 du matin. Et ben voilà, si. Enfin un roman qui s'empare de la question du Bitcoin.
Voilà, et de la technologie.
Blockchain.
Non, exactement. Mais je suis pas sûr que si vous en parlez comme ça, vous allez vraiment lui rendre service.
Et une rentrée littéraire, c'est l'inverse de l'intérêt négatif.
D'accord. Alors bon.
Olivier,
c'est clair.
Trop tard. Bravo, Eric.
On va rattraper les choses. C'est
alors,
a priori un très grand.
Oui.
Court.
Oui.
Les grands romans d'espionnage. Mettons que ça démarre comme ça.
Voilà. Alors deux choses aussi. Jean-Philippe Toussaint nous amène dans deux mondes, en tout cas deux pays, deux univers qu'il connaît très bien, et ça fonctionne. Il nous prend par la main. Le premier, c'est Bruxelles, avec ses fonctionnaires européens, avec ses lobbyistes qui tentent de les approcher. C'est ce rapport de force que met en scène tout d'abord ce roman autour de cette technologie et de cette clé USB malencontreusement perdue par l'un des acteurs de ce roman. Puis en Chine, où on va aller avec le personnage principal, autre terrain de prédilection de l'auteur. Moi, j'ai trouvé ce livre intéressant sur ce point-là, c'est-à-dire cette capacité à nous amener dans les méandres de ce monde qui reste assez opaque, à travers une mise en scène, somme toute, assez simple. Et la fin. Alors moi, j'ai pas compris.
Et histoire de se faire haïr. Non, je pense effectivement que c'est un roman d'espionnage, que c'est un polar qui joue de tous ces codes-là, en tout cas, et qu'il invente quelque chose. Et je m'arrêterai là. Il invente quelque chose qui est le roman intime qui passe par la blockchain et le Bitcoin.
Donc la présentation d'un autre livre, Arnaud Laporte.
Alors, on a jusqu'à quelle heure en fait? Parce que là, j'ai un livre de 900 pages.
Ça va jusqu'à 9h, mais en fait, à
9h45,
il y a
la séance déborder,
parce TTC.
Non, ça irait dans le cours de l'histoire très très bien. C'est La fabrique des salauds de Chris Krauss chez Belfond. Chris Krauss est un auteur allemand, cinéaste également. La traduction, c'est Rose Laborie. Il a traduit 900 pages en compagnie d'un monstre. On était dans un hôpital en Bavière en 1975. Il y a un monsieur d'une soixantaine d'années, et puis il y a un jeune hippie c'est l'époque, hein, qui pense que le monde est régi par la paix et l'amour, ce qui va énerver notre vieux monsieur qui va commencer à lui raconter sa vie, et sa vie terrible, parce qu'elle va traverser à peu près toutes les horreurs du siècle. Ça commence par le lynchage de son grand-père pendant la révolution bolchevique de 1905, celle qui n'a pas forcément marché. Et puis ensuite, on va suivre deux frères, le narrateur Koja, qui va évidemment s'engager dans la SS, non pas par conviction, mais par opportunisme. Et puis par opportunisme, il retournera plusieurs fois sa veste, et comment on passe de nazi à agent du Mossad, et comment on se renie sans cesse, et comment on commet toutes les trahisons pour commettre tous les crimes. Finalement, quand je dis ça, ça a l'air épouvantable et ça rappelle d'autres textes, mais ce qui est très curieux, c'est que ça se lit extrêmement bien, de façon très fluide. C'est le talent de Chris Krauss pour la fabrique des salauds. Je développerai ultérieurement.
Désormais que nous avons parlé donc de la fabrique des salauds, nous allons parler du ghetto intérieur par Santiago Amigorena, que nous avons reçu également.
C'est l'art de la transition.
PL,
en fait.
Voilà.
Oui, il y a toujours des livres qui parlent du nazisme quand même dans une rentrée littéraire.
Voilà, il y a les nazis et les juifs. Voilà. Donc parler des juifs.
Là, il est question de la Shoah. Mais de la Shoah vue d'Argentine. Et Amigorena, qui écrit une œuvre autobiographique, là cette fois-ci, se concentre sur la figure de son grand-père, qui était un juif polonais, qui s'est exilé en Argentine en 1928, en particulier parce qu'il trouvait que sa mère était un peu envahissante, et il a suivi à distance, avec horreur, avec épouvante, avec impuissance, ce qui se passait en Europe dans les années 30, puis dans les années 40. Il a reçu quelques lettres de sa mère qui était enfermée dans le ghetto de Varsovie. Il a compris qu'il était bien trop tard pour la faire venir, et il s'est réfugié dans le silence complet. Et Amigorena raconte ça vraiment très très bien. Vraiment, c'est très simple, c'est très dépouillé, c'est très émouvant, et c'est une façon de raconter cette histoire abominable avec 7 ou 8 000 kilomètres de recul qui la raconte, cette histoire qu'on connaît. Il la raconte comme on l'a jamais lu, et on la vit avec ce grand-père là qui a éprouvé une culpabilité terrible après, pendant toute sa vie.
Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena chez POL, Sandrine Trainer.
Non, pour finir, on peut d'abord préciser que Santiago Amigorena était à votre micro avec Amos Gitaï la semaine dernière, qu'on peut le réécouter. Peut-être dire, pour finir, et par goût du paradoxe, peut-être dire un mot d'un livre que nous n'avons pas mis dans la sélection, parce qu'il faut faire des choix, mais qui est un livre que je sais, avec nos amis de l'Obs, avec Jérôme Garcin, nous avons beaucoup aimé, qui a été une forme de révélation à la lecture, et que vous avez reçu également, Guillaume Erner. Il s'agit du troisième roman d'Emma Baker. Voilà, La Maison, qui est, alors on parlait des femmes, voilà une jeune femme qui parle des femmes de manière tout à fait surprenante. Et il me semble important de le noter. Et puis peut-être dire un mot d'une femme que vous avez entendue dans les avoinus de la semaine dernière et dont on reparle de manière particulière en cette rentrée, qui est Amélie Nothomb. Là, elle parle d'un homme, puisqu'elle parle même, elle fait parler, elle est à la place de Jésus. Ça s'appelle Soif, et peut-être va-t-on en parler particulièrement cet automne.